Et puis, le temps traînait comme ça, sur le camp d'aviation, si vous saviez, c'était le trafic complet, où chacun échangeait ce qu'il avait. C'était l'un des cigarettes contre des cartes de pain, l'autre des cartes de pain, il échangeait contre des galettes, les galettes, il les échangeait contre des cigarettes. En fait, chacun faisait son petit ménage avant la rentrée, et puis, même encore dans la journée. Et il y avait même les ramasseurs de mélos, je crois même que je... À cette époque-là, je commençais déjà à ramasser les mélos. Et puis, un jour, en rentrant chez moi, ma mère me dit, j'ai eu la visite des gendarmes et ton frère a disparu de d'où il était. Et en définitive, je vous dis que je vous ai dit qu'il était à Leipzig, mais nous l'ignorions, il n'avait jamais écrit, s'il avait écrit, la lettre n'était jamais arrivée. Alors elle me dit, ton frère a disparu, enfin je ne sais pas, les gendarmes me disent qu'il ne serait pas en Allemagne. Et effectivement, donc elle avait eu cette visite, on lui demandait, pouvez-vous prouver que votre fils est bien d'Allemagne? Alors elle disait non. Et puis alors un jour, je me souviens, je ne sais pas, je devais être fatigué, je n'avais pas été travailler ce jour-là. Et effectivement, il y a un sidecar allemand qui est venu, un sidecar, un motocidecar, ils étaient deux, de la fête des gendarmeries, le grand colis à vache, là. Et cela parlait français quand même. Et ils interpellent ma mère, ils disent, voilà, votre fils Louis est... a été déporté en Allemagne, or il a disparu de son camp et nous voudrions savoir si vous avez des nouvelles de lui. Certainement pas, mère n'avait aucune nouvelle de lui, donc non, 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 non. Alors, ils étaient relativement corrects, ils ne sont pas fouillés, rien du tout, d'abord ils n'avaient pas fouillé. Et puis, une quinzaine de jours plus tard, et là, ça devait être c'était quand même plus tard que ça. Ça traînait quand même. Ils sont venus plusieurs fois. Puis encore les gendarmes, et puis ainsi de suite, ils sont venus plusieurs fois. On n'avait toujours pas de nouvelles. Et alors, ça va être en février, ou tout à fait fin janvier, ou début février 43. Nous avons reçu une lettre priant mon père, ma mère et moi de nous rendre à la commandanture rue de Cursol à Bordeaux, où était mentionnée une heure de réception. Alors nous y sommes rendus, et puis là l'allemand, l'officier officier allemand, là ils étaient plusieurs d'ailleurs, a fait connaître à ma mère que mon frère, ayant disparu d'Allemagne, était considéré comme déserteur, et qu'en conséquence, il était dû à un travail à l'Allemagne que je devais rendre à sa place. Mais comme j'étais trop jeune pour partir en titre du STO, je serais requis pour travailler à l'organisation TOD, à La Rochelle. L'organisation TOD, c'était une organisation un petit peu, si vous voulez, comme on pourrait dire en France, les ponts et chaussées, mais les membres de cette organisation avaient un uniforme qui était kaki et portaient le brassard à croix gammée. C'était des ingénieurs, des, vous voyez, des gens comme ça. Et ça doit être dans les plateformes début février, effectivement, j'ai eu un ordre de route et puis je devais me présenter sur une place à Bordeaux. Enfin, je ne me souviens plus, là, il y avait un bureau là, la Saint-Ramas. Et c'était eux qui regroupaient, si vous voulez, tous les gens qui étaient requis, c'était une réquisition, pour partir travailler là-bas. Et alors j'ai emporté quelques affaires, c'était tout. Et on a pris le train et nous sommes arrivés à La Rochelle. Un quart de l'armée allemande nous a pris et nous a amené jusqu'à La Panisse, où il y avait une base de sous-marins, qui était juste contiguë d'ailleurs au cantonnement où nous étions. Alors le cantonnement, La Panisse avait tout été évacué, il n'y avait plus un seul civil, c'était une zone interdite, il fallait en laisser passer pour y pénétrer, que nous a fait tout de suite d'ailleurs. Et puis il y avait toute une cité ouvrière là où les gens avaient été expulsés, et l'organisation d'Onde avait requis aussi ces bâtiments, et dans chaque pièce il y avait des charlies en bois blanc, vous savez, comme les charlies de l'armée allemande de l'époque, à deux places superposées, et on était entassés dans des pièces. Alors il y avait qui logeaient dans des chambres, d'autres qui logeaient dans des cuisines, d'autres qui logeaient dans des n'importe où, oui, dans tous les bâtiments comme ça. Et alors il y avait toute une rue où ils avaient mis des paravents en bois dessus pour préserver la pluie, et c'est là que on nous distribuait le café le matin et la soupe le soir, mais il n'y avait pas de banc pour s'asseoir. On passait, on nous donnait la soupe, puis chacun repartait avec sa gamelle et son verre. Voilà, la charge à nous d'ailleurs de nettoyer tout ça. Bon. Et puis, le matin, il y avait un car qui passait nous ramasser, et nous partions travailler à la construction d'un blockhaus sur le bord de la mer, à Lozière, ça s'appelait. C'est un petit village qui est à une quinzaine de kilomètres environ de La Rochelle. Alors, là, je ne sais pas combien nous pouvions être, environ une centaine d'ouvriers de tous âges. Tous ces gens-là étaient des requis. Les raisons, vous savez, je crois qu'on ne se parlait pas tellement, les raisons pour lesquelles nous nous trouvions là, c'est simplement que c'était... tous ces gens-là étaient requis au même titre que j'étais requis. Et j'avais été affecté au transport des brouettes. Alors, il y avait des gens, des marteaux-piqueurs, il y avait des pelles, il y avait des pioches, il y avait ainsi de suite. Et on creusait un grand trou assez profond pour faire l'embrasse du blockhaus. Et mon travail consistait à prendre les brouettes qu'un gars remplissait et à aller les vider du bord de la falaise, les vider sur la mer en bas. Il y avait la mer qui était au pied, 20 mètres plus bas. Et alors, si vous voulez, à part les bombardements quotidiens, parce que la base sous-marine qui était distante d'environ 500-600 mètres de chez nous était bombardée pratiquement deux ou trois fois par semaine, donc il y avait des alertes. Mais pour nous, il n'était pas question qu'on nous mette des abris. Alors on sortait, on regardait, c'était quelque chose de fantastique, d'autant plus qu'il y avait les Allemands avaient tendu des ballons captifs, vous voyez, qu'on appelait les saucisses, avec des câbles partout, de façon à empêcher que les avions puissent descendre très bas pour bombarder. Alors c'était toujours en très haute altitude. Et des fois, il y avait des saucisses qui prenaient feu, qui éclataient, enfin c'était quelque chose de terrifiant, mais assez fascinant, vrai, quand on a fait mon âge. Et là, évidemment, nous étions rémunérés. Nous étions rémunérés et même très bien payés. Ce qu'on avait oublié de me dire au départ, à la commandant tour, c'est qu'il fallait que je sois muni d'un certificat de résidence, parce que nous étions rémunérés selon la résidence. C'est-à-dire que les gens qui étaient relativement près, touchaient moins que ceux qui étaient très loin. Donc il fallait que je prouve que j'habitais Mérignac pour que ma rémunération soit plus importante. Donc du fait que je n'avais pas fourni le certificat de résidence, je n'étais pas rémunéré. Or, si j'ai touché mon salaire, mais je n'avais pas cette indemnité de résidence qui était quand même assez conséquente. Et alors, j'avais écrit à mes parents en leur disant, passer à la mairie, demander un certificat de résidence. Mais là, mes parents, ça devenait difficile à vivre. Et ma mère avait dû prendre elle-même à faire du travail. Donc, il n'y avait plus personne à la maison. Et ma foi, elle disait, un jour ou l'autre, enfin, je ne sais pas où, alors... Enfin, je suis passé février-mars, comme ça, oui, février-mars d'ailleurs, à travailler. Puis en fin mars, comme ma deuxième paye, j'avais toujours pas de certificat de résidence, j'ai été voir le comptable qui était un Belge, là, et je lui ai dit, écoutez, le seul moyen pour me procurer un certificat de résidence, c'est que je puisse descendre moi-même à Bordeaux et le demander à la mairie. Bon, alors... Vous savez, j'étais jeune, puis je n'étais que requis, je n'étais quand même pas détenu, vous voyez. Alors, il me dit, bon, ben, je vais te signer une permission de 2 jours pour faire ton papier, et tu reviens, tu remontes. Voilà, alors là, ça, si vous voulez, c'est à partir de là que on commence, c'est pour vous situer l'époque, tout ça, que je vous ai parlé de tout ça. Donc, je descends à Bordeaux et... J'arrive chez moi, mais alors évidemment, j'ai aperçu mes parents le soir, mais mes parents partaient travailler la main, donc moi je devais me rendre à la mairie. Et c'est en sortant de chez moi que je retombe sur Verdier-Maurice, que j'avais perdu de vue depuis notre fugue. Et alors, d'un mot à l'autre, c'est très difficile, ça fait quand même très loin. Sous quelle forme, dans quelles circonstances nous sommes arrivés à reparler, de repartir, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que à peu près une demi-heure après que nous étions trouvés, eh bien, nous avions décidé que nous partirions, mais cette fois-ci plus en zone libre, mais en Espagne. Il m'avait dit qu'il avait une tante à Saint-Pé-de-Bigorre. Saint-Pé-de-Bigorre, alors c'est un village qui est un petit peu avant Lourdes. Et il avait dit, bon, ben, on part, et puis là, à Saint-Pé, on s'organisera pour pouvoir partir, pour pouvoir franchir la frontière espagnole. Et ça s'est décidé tout de suite, vous voyez, comme ça... Le lendemain matin, théoriquement, c'était le jour où je devais repartir pour La Rochelle, et eh bien, je suis passé par la fenêtre, derrière, pour que mes parents ne m'entendent pas, parce que ça me sont partis de très bonne heure, et j'ai rejoint Verdier chez lui. Ses parents travaillaient aussi, sa mère était infirmière, je crois, je ne me souviens pas. J'ai rejoint Verdier chez lui, et puis on a fait nos préparatifs. Sur que moi j'avais déjà tout préparé, puisque pratiquement j'emportais pas grand chose. J'emportais une toute petite valise qui était minable, et dans laquelle j'avais pris une baïonnette. Ah, j'avais une baïonnette que mon frère avait achetée au marché aux puces, bien avant la guerre, et il disait ça, c'est une arme, ça pourra toujours éventuellement nous servir. Mais elle était un petit peu trop longue d'ailleurs que la valise, et alors j'avais percé la valise, il y avait la pointe qui sortait. Oh, pas grand chose, mais enfin, 1,5 cm à peu près. Et puis nous sommes partis, nous avons pris le train. Et alors je disais, nous avons pris le train pour Lourdes. Alors il y avait une particularité. Et on avait mûrement étudié la question, sans en connaître exactement les données remarquées. Voilà, les Allemands avaient envahi la zone libre, je crois que c'est le 11 novembre 1942, ce moment où la flotte de Toulon s'était sabordée. Et alors donc, la zone libre était occupée par les Allemands. Mais, si vous voulez, la zone de démarcation entre zone libre et zone occupée était quand même maintenue. C'est-à-dire qu'il y avait un contrôle, quand même, de la part des autorités allemandes, pour tous ceux qui franchissaient la zone. Ce contrôle était beaucoup moins sévère, si vous voulez, qu'avant. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus de laisser passer, mais il fallait faire un contrôle d'identité et de donner les motifs, si vous voulez, pour passer d'un côté ou de l'autre. Nous avons pris le train jusqu'à Dax. À Dax, on a changé de train. Et la zone de démarcation passait par Orthès, c'est les Basses-Pyrénées, oui. Et alors, arrivé en gare d'Orthès, le train s'arrêtait, et au micro, il était annoncé en allemand et en français que les voyageurs qui se rendaient à Orthès pouvaient descendre, et que tous les autres voyageurs devaient rester dans leur compartiment où il y aurait un contrôle de l'armée allemande qui passerait pour vérifier les identités et les motifs de voyage. Alors, il n'était pas question, évidemment, qu'on se fasse contrôler. Alors, donc, nous sommes descendus avec les gens qui descendaient sur Orthès. Et quand le quai a été libre, là, le contrôle a commencé. C'est-à-dire que les Allemands se mettaient... Il y avait un groupe d'Allemands qui se mettait à l'entrée de chaque wagon pour ne pas qu'il y ait des gens qui s'échappent. Et puis, il y avait deux Allemands qui rentraient, qui vérifiaient toutes les identités, tous les motifs dans chaque compartiment. Alors, nous étions sur le quai de gare. Alors, nous étions... Il ne faut pas oublier que si nous n'avons pas été interpellés, c'est parce que nous étions deux gamins. Là, vous savez, il y avait ces pompes à eau rotatives, là. Et on a commencé à boire. À boire, se laver, et reboire, et puis voilà, pendant tout le temps où le contrôle s'effectuait dans notre wagon. Et alors, quand le contrôle arrivait à l'autre bout du wagon, toute la troupe changeait de wagon, et ainsi de suite. Donc, quand la troupe, l'ensemble du contrôle a été fait dans notre wagon, eh bien, nous sommes remontés tranquillement dans notre wagon, et personne ne nous a rien dit. Pour les Allemands, ils devaient penser que c'était les parents qui étaient à l'intérieur et que nous étions descendus, c'est qu'ils ne s'occupaient pas tellement de nous. Voilà. Et puis, ma foi, ça s'est passé, nous sommes arrivés à Lourdes, il devait être aux environs de 10h ou 11h du soir. Alors c'était le blackout complet, il faisait une nuit noire. Et puis, si vous voulez, se représentait ce qui s'était passé 2 ans plus tôt. Eh bien, on ne savait pas où coucher et nous n'avions rien pour dormir. Et là, nous étions donc en avril. C'était dans les début avril 1943. Alors, on a tourné un petit peu dans la ville où il faisait tout noir. Et puis, quand même, il n'était pas question qu'on donne trop l'éveil à errer dans la nuit. Alors, on a trouvé à dire, ben, dans le fond, on va faire comme les clochards. Et il y avait le pont qui enjambe le Gave. On s'est mis dessous. On s'est couvert avec les quelques vêtements que nous avions. Et puis, on essayait de dormir sous le pont. Eh bien, croyez-moi qu'il faisait très, très froid. Voilà, on a passé une nuit, donc, sous le pont du Gave à Lourdes. Et alors, au petit matin, il fallait donc revenir directement sur Saint-Pé. Alors là, je crois qu'encore Verdier, il avait un petit peu triché. Je ne sais pas s'il avait réellement une tente à Saint-Pé-de-Bigorre, mais qui a dit, lui ou moi, je ne sais plus, qui a dit, dans le fond, pourquoi faire partir à Saint-Pé si on partait directement en direction de la frontière. Alors, là, autre anecdote. Voilà, on a mis sur place quelque chose qui était... Mais vous savez, ça se passait toujours très vite, dans des conditions comme ça. À l'école, nous avions un professeur, un instituteur plutôt, mais avant la guerre, ça, qui devait prendre sa retraite et qui avait dit, qui nous avait dit, je pars à la retraite à Cotteray. Je me retire à Cotteray. Voilà, alors ça nous était resté, d'autant plus que cet instituteur, on l'aimait bien, il s'appelait d'ailleurs comme monsieur Seguin, comme l'histoire de la chair, il s'appelait monsieur Seguin. Et il partait à Cotteray. Alors on a dit, ben c'est pas difficile, si on se fait prendre, on dira qu'on ira chez monsieur, qu'on allait chez monsieur Seguin, hein, qu'on allait lui rendre visite. Oui, c'était un enchevêtrement, mais très fugitif, très vite, vous voyez, c'est... Et puis nous sommes partis en direction de Cotteray. Voilà, on avait quand même quelques connaissances de géographie, en disant Cotteray, on savait qu'il y avait le pont d'Espagne, et puis ainsi de suite, vous voyez, bon. Alors on part, et on prend la route, on marchait sur la route avec notre petite valise, enfin moi, petite valise, lui, je crois qu'il avait un sac, lui. Et puis, on marche, et... C'était le jour, quoi. Il faisait très beau soleil, alors on voyait tous les pics enneigés, alors on se faisait quand même un peu des cheveux en disant il va falloir traverser tout ça. On n'était pas tellement fiers, hein, soyons logiques. Enfin, on marchait, et alors c'est là que vous allez être surprise, parce que nous étions sur le bord de la route et d'un seul coup on rencontre un paysan qui arrivait en face de nous. Et il vient vers nous et puis il nous dit si vous continuez, dans à un kilomètre à peu près, vous allez tomber sur un poste allemand. Parce que de l'autre côté, c'est la zone interdite, qui va jusqu'à la frontière. Alors, on discute un petit moment avec lui, on lui dit, mais il n'y a pas moyen de passer. Alors, ici, voilà, d'ici à 500 mètres à peu près, vous allez voir, il y a un petit chemin qui monte sur la droite de la route, et vous allez trouver une forêt de châtaigniers, une châtaigneraie. Alors, vous allez longer la châtaigneraie tout le long, vous allez dominer le poste de contrôle allemand, et vous pourrez redescendre sur Argelès-Gazost. Au bout de la châtaigneraie, vous verrez, vous serez au-dessus d'Argelès-Gazost. Et on ne lui avait rien demandé. Donc c'était, si vous voulez, notre attitude, notre... Voilà, il devait fréquemment y avoir des gens qui passaient et toute la population était pour aider les gens qui passaient. C'est assez curieux. Ça peut vous paraître curieux, alors qu'en définitive, c'était très normal. Et alors, effectivement, on a trouvé ce petit chemin, on l'a pris, et on est passé dans la forêt de châtaigniers, et c'était assez amusant de voir, presque à nos pieds, à quelques 150 ou 200 mètres au-dessous, il y avait effectivement ce poste de contrôle allemand avec une barrière, vous savez, comme les passages à niveau, où tous les véhicules, tous les gens qui passaient, devait monter et montrer patte blanche avec le laissez-passer spécial pour les résidents de la zone. Seuls d'ailleurs les résidents de cette zone pouvaient bénéficier d'un laissez-passer puisque c'était une zone interdite. Tous ceux qui ne résidaient pas dans cette zone ne pouvaient pas y pénétrer. Cela était fait, c'est-à-dire qu'il y avait une ligne qui était à 18, 15, 12. 12 km plus ou moins de la frontière, vous voyez toute la zone, depuis Biarritz jusqu'à Perpignan, il y avait une ligne comme ça qu'il fallait franchir, une ligne franche, justement pour empêcher les évasions du côté espagnol. Alors, on traverse, alors on voyait ce poste, et puis on a continué notre marche sans être inquiété nullement, et nous sommes arrivés, comme il nous l'avait dit, au-dessus d'Argelès-Gazost. Alors nous sommes redescendus dans la ville, parce que, ayant traversé, on se disait maintenant, on est peinard jusqu'à la frontière. Hein, ce qui est le plus important, ce que nous pensions, c'est d'avoir traversé. Et alors, bon, nous descendons. Et alors, on dit, oui, alors maintenant, dis donc, c'est que la marche à pied, c'est quand même long. Alors, on va peut-être prendre le train en direction de Courtrai. Et alors, il était environ midi. Alors on s'est arrêté, on a cassé la croûte dans la ville, hein, sans s'inquiéter, il n'y a eu le tout. On était sûr de nous, on a fait notre premier passage, maintenant le deuxième passera aussi bien, oui, on était très confiants. Alors on a mangé sur un banc public, là, on a... Et puis nous sommes allés à la gare et il y avait un train qui partait, je crois que c'était 13 heures des poussières, en direction de Courtrai. Oui, il y avait un autre bled, Pierre Fitnestala, je crois, je me souviens plus, enfin. Et on va à la gare, on prend le ticket de train, et on passe, on arrive sur le quai. Alors, on arrive sur le quai, on était très peu, d'ailleurs, il y avait peut-être 5-6 personnes, pas plus. Et puis, le train arrive, c'est une Micheline. Et au moment où la Micheline arrive, sur le quai de gare surgissent deux gendarmes français. Hein. Ah, ils n'ont pas fait un plaisant. On devait sentir ceux qui veulent s'évader à plein, et parce qu'ils se sont dirigés directement sur nous. Ils nous ont demandé de nous laisser passer. C'était la fin des rêves. Il n'y avait plus rien à faire. Ben, on n'a pas de laisser passer. Alors, l'histoire de M. Seguin, pof, on l'a sortie toute chaude. Et alors, le gars, il dit, bon, ben, le gendarme, il dit, bon, ben, suivez-nous. Et alors, nous sommes ressortis, c'était fini, quoi. Hein. Alors, on arrive à la gendarmerie. Première chose à faire, il commence à nous séparer. Maurice Verdier d'un côté et moi de l'autre. Et puis, on va chacun dans une cellule. C'était mes premiers contacts avec la prison, la cellule. C'était très propre d'ailleurs, avec une espèce de bas-flanc par terre en bois, une petite lucarne avec un barreau. Et puis alors, bon, dans l'après-midi, il m'appelle, j'étais seul, et alors... le gendarme là, me dit, bon, raconte-moi ton histoire de M. Seguin. Alors, lui dit, ben voilà, enfin, je lui dis plutôt, bon. Et puis, il me dit, bon, ben, retourne dans ta cellule, il avait pris la déposition. L'histoire de la baïonnette, bon, il n'en tenait pas compte, il ne m'en parlait pas. Je suppose qu'il a appelé Maurice Verdier après. Et puis bon, un moment après, il me rappelle encore de nouveau. Puis alors il me dit, bon, ben mon Dieu, c'est fini. Hein. Ton copain vient de tout nous dire, vous vouliez partir en Espagne. Bon, alors, je me suis fait prendre à ce baratin. Alors, j'ai dit, ben ça, s'il vous l'a dit, pas de problème, quoi. Je ne cherchais même plus à nier. Et alors, j'étais très lent. J'ai découragé, puisque de toute façon c'était fini, pris, alors pris comme ça, ou pris pour... et alors, on s'est trouvé réunis à ce moment-là, et on a couché dans la même cellule. Le soir, il y a un gendarme qui nous a apporté à manger, c'était pas formidable, mais surtout qu'on avait guère faim, mais... en définitive, c'était pas vrai. Maurice n'avait rien avoué du tout. Mais il avait, si vous voulez, il l'avait contraint à avouer, après m'avoir interrogé, il lui avait sorti le même baratin. Ton copain a tout avoué, alors voilà. Alors lui s'était dégonflé comme moi, on s'était fait prendre tous les deux. Bon. Alors on a passé la soirée là, et Dieu sait que c'était long, et puis. Il fallait bien dormir quand même, alors on s'est endormi. Et sur le coup de 4 heures du matin, on a été réveillé par un gendarme Et là, on a fait connaissance avec les menottes. On a commencé par nous mettre les menottes, deux gendarmes, chacun tenu par le poignet gauche et le gendarme, ou c'est le contraire peut-être. Non, non, c'était bien ça, j'avais le poignet gauche qui était pris, et le gendarme tenait la menotte avec la main droite. Et puis, on est allé à la gare, mais on a pris un train qui partait en sens inverse de ce que nous avions fait, et on nous a amené jusqu'à Lourdes. Alors à Lourdes, on nous a amené à la gendarmerie de Lourdes, et là, il y avait plusieurs détenus, là, qui étaient aussi dans des cellules, on s'est retrouvés, on était cinq dans une cellule, une grande cellule. Et puis, on a fait connaissance, donc, il y avait, nous étions cinq au total, oui. Et ça, il y avait deux frères qui étaient d'Afrique du Nord et qui voulaient repartir en Afrique du Nord. Et puis, il y avait un gars du Havre aussi, et tous ces gens-là, alors, plus vieux que nous, vous voyez, c'était des gens qui avaient 22 ans. Ils nous regardaient un petit peu avec condescendance, si vous voulez. C'était des gars qui voulaient partir, c'était pour faire la guerre, quoi. Nous aussi, bien sûr, mais enfin, on paraissait des minables à côté d'eux. Alors on est allé, on nous a transféré au palais de justice. Et puis là on a été séparés, Maurice et moi, ils sont restés ensemble. Mais les trois autres, on les a pas vus tout de suite. Et puis alors, il y a un bonhomme qui est arrivé, il a dit, voilà, je suis avocat, je suis nommé d'office, je m'appelle Maître Liès. Et je suis chargé de vous défendre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on a dit? Ce qu'on avait dit aux gendarmes, on n'avait rien à dire de plus. Et puis alors, un moment après, on nous a emmenés. Et nous sommes arrivés à la salle d'audience. Ça a été très vite fait. Alors, devant la salle d'audience, là, oui, on a rencontré les trois autres. Et alors, ils sont rentrés. D'abord, il y en a un qui est rentré. Il est ressorti. Un quart d'heure après, même pas 10 minutes après. Il est ressorti après, avec un avocat aussi. Puis ensuite, ça a été les deux frères d'Afrique du Nord. Et après, ça a été notre tour. Alors ça a été très vite fait. On nous a lu l'article, tentative de franchissement de frontières, en dehors de la zone. La zone admise s'est trouvée, a été prise en zone interdite, non humiliée, s'est passée, a déclaré, enfin, infraction à l'article temps. Oui, des trucs comme ça. Alors, l'avocat que nous avions eu, Maître Liès, il a pu simplement se borner à dire ont agi sans discernement. Terminé, et le verdict tombait tout de suite, un mois de prison, 200 francs d'amende. Voilà. Alors, aussitôt, on n'a même pas eu la parole, ni rien du tout. Maître Liès, il s'est volatilisé, on n'a plus revu, et on s'est retrouvé avec les gendarmes, et donc les trois autres, qui nous laissaient discuter quand même, les gendarmes. Alors, on s'est retrouvé, un mois de prison, 200 francs d'amende, et tout le monde avait le même tarif d'ailleurs, hein. Que ce soit les autres ou nous, un mois de prison, 200 francs d'amende. Voilà. Alors, on nous a ramenés à la gendarmerie, et je me souviens pas si on nous a donné à manger à midi, je n'ai pas tellement idée là, si on nous a donné à manger. Et puis, tout à fait en début d'après-midi, on est parti à la gare, tous les cinq. Alors les gendarmes ont été... Bon, j'estime, en ce qui me concerne, particulièrement odieux. Parce qu'ils nous ont fait traverser tout Lourdes jusqu'à la gare avec les monotomains, mais vraiment comme des voleurs de grands chemins, quoi. Mais alors on était attachés deux par deux. J'étais enchaîné avec le gars du Havre. Le gars du Havre était enchaîné avec un gendarme. Les deux frères étaient enchaînés ensemble et avec un autre gendarme. Et puis Maurice était enchaîné avec un autre gendarme aussi. Et puis nous sommes arrivés, alors bien sûr toute la population nous regardait avec des grands yeux parce que bon, c'était pas marqué dessus que nous étions, si vous voulez, politiques. Alors on pouvait être n'importe quoi, criminel, voleur, on pouvait être n'importe quoi. C'est vraiment le... C'est ça, quand on ressent l'infamie. Et puis nous sommes arrivés sur le quai de gare, et sur le quai de gare, il y avait un wagon qui nous était réservé, un compartiment plutôt qui nous était réservé, parce qu'il n'y a pas de prison centrale à Lourdes. La prison centrale est Tarbes. Et donc nous devions aller jusqu'à Tarbes pour être incarcérés. Sur le quai de gare, c'est la même chose. Il y avait de nombreux voyageurs qui étaient là, mais les gendarmes ne voulaient pas, la raison je l'ignore, ils ne me l'ont pas dit, nous monter tout de suite dans le compartiment qui était réservé. Ils nous ont laissés sur le quai, enchaînés comme ça, à la vue de tous les voyageurs. C'est quelque chose d'affreux. Il y a même une dame qui a essayé de nous causer, je me souviens, une dame, et le gendarme l'a poussée presque brutalement. Au bout de 20 minutes peut-être d'attente sur le quai de gare, on est monté dans notre compartiment et puis nous sommes partis en direction de Lourdes, de Tarbes. Et alors c'est en arrivant à Tarbes qu'il devait y avoir des ordres que nous ignorions, c'est-à-dire que Verdier et moi, nous n'avons pas été incarcérés à la prison centrale, mais à l'hôpital. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, il y avait des chambres pour les détenus de la prison centrale qui étaient malades. Et alors, on nous a amenés à l'hôpital, tous les deux, et nous avons été assignés en résidence, si vous voulez, surveillés par la police municipale à ce moment-là, dans l'hôpital. Alors on mangeait à la conciergerie, en bas avec les personnels, jardiniers, ainsi de suite. Et puis on avait quand même la liberté de se promener dans le parc de l'hôpital, mais le soir on rentrait et j'avais une chambre que je partageais avec un petit gars de l'assistance publique. Je sais pas ce qu'il avait fait exactement, je me souviens plus. Il avait fait quelque chose et lui aussi il était dans les mêmes conditions que nous, c'est-à-dire détenu, mais à l'hôpital. Et Maurice Vernier couché dans une chambre à côté avec un Algérien qui lui aussi était détenu. Lui aussi pour passage de frontière. Voilà. Et alors, dans la journée, bon, on pouvait sortir dans le parc. Et alors, il nous est même arrivé d'enjamber le mur et de se promener dans Tarbes, dans la journée. On se promenait dans Tarbes et on réenjambait le mur derrière l'hôpital. Ça, c'est mon voisin qui me l'avait montré, là, parce que lui, il était détenu depuis assez longtemps. Il m'a dit tu vas au fond du jardin, tu passes par-dessus la barrière, et puis par-dessus le mur, quoi, et puis tu te retrouves dans la ville, et pour monter, c'est pareil, il y a le vieux portail qui est condamné, et tu passes par-dessus et tu peux rentrer. Alors, effectivement, là, on était là, on parlait, la concierge nous parlait de Gavarni, tout ça. Et puis. un jour que je me trouvais avec l'Algérien qui... enfin, on se trouvait, Maurice et moi, avec l'Algérien qui était... qui couchait, qui partageait la chambre de Maurice. C'est lui qui a dit, bah, écoutez, si un jour vous avez l'occasion, moi je suis encore là pour quelque temps, je connais une filière pour passer en Espagne, et si vous voulez, je pourrais vous donner des adresses. Ensuite, alors, vous savez, on avait écouté ça, mais on n'avait pas l'intention de recommencer. Bon, et puis, il y avait environ 15 jours, ou 15 jours, 3 semaines que nous étions là, et un jour j'ai appris que Madame Verdier s'était déplacée jusqu'à Tarbes, et bon, elle avait obtenu des autorités que son fils soit libéré conditionnel et qu'elle le ramenait. Donc un soir, il est arrivé, elle ne m'a même pas passé la parole, elle a pris les quelques affaires qu'il y avait, les gendarmes sont venus, ils lui ont donné ce qu'il possédait, et j'ai perdu Maurice Verdier à ce moment-là. D'ailleurs, je dois vous dire, nous ne nous sommes jamais revus. Voilà, quant à moi, eh bien, comme mes parents n'étaient pas assez riches pour se payer un voyage, j'ai fait tout mon mois complet à Tarbes, bon, dans des conditions très très mauvaises, sinon on me trouvait seul. Et puis un jour, il y a un monsieur qui est arrivé là, il m'a dit voilà votre ordre de route. Demain, les gendarmes vous rendront tous vos papiers et je suis chargé de venir vous prendre et de vous amener jusqu'au train. Voilà. Alors donc, le lendemain, les gendarmes sont arrivés. Alors là, c'est là que je vous ai raconté l'anecdote du briquet. Ce gendarme, il me rend tout ce qui m'appartenait, carte d'identité, sauf la baïonnette bien sûr, et puis un briquet. Et ce briquet, je vous ai parlé de l'estampille d'État, ça appartenait aux contributions indirectes. Quoi, il fallait que les briquets soient estampillés des contributions indirectes. C'était joli d'ailleurs cette petite estampille. Et il me rend tout, je lui dis mon briquet. Il me dit, des briquets sans estampille, à 40 sous, je t'en donne tant que tu en veux. Et alors, j'ai poussé l'audace, comme il me restait 29 francs, de dire, ben, tenez, voilà 2 francs, rendez-moi mon briquet. Parce que 40 sous, ça faisait 2 francs. Hein. Et j'ai reçu la tarte magistrale, vous voyez, qui dégringole, là. D'autant plus que ce gendarme, je me souviens de son nom, c'était le brigadier Castex, m'a donné une paire de claques monstrueuses. Pas une paire, non, une seule, soyons pas exagérés quand même. C'est vrai que j'ai eu ma claque, mais je n'ai pas eu le briquet. J'ai gardé mes 29 francs. Et puis, il y a ce monsieur en civil là, qui m'a pris, qui m'a amené jusqu'au train. Et je suis rentré sur Bordeaux. Il est certain que là, je n'ai pas eu à descendre à Orthès, puisque j'avais un papier de la gendarmerie authentifiant mon retour. Voilà. Voilà donc ma première tentative, si vous voulez.